Nous allons poursuivre aujourd'hui notre étude sur le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, les versets 6 à 13. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 13. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, et tribu, et langue, et peuple, en disant d'une voix forte: Craignez l'Éternel et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Et un autre ange le suivit en disant: Elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur, préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera aux siècles des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis une voix du ciel qui me disait: Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs œuvres et leurs œuvres les suivent. Alors, on avait donné comme titre à la leçon le message des trois anges pour le monde et pour l'Église, qui se résumait en trois mots: alerter, appeler et annoncer. Alors, on avait regardé dans le sermon précédent que les chapitres 13 et 14, c'est important qu'on le réalise, ce sont deux chapitres qui sont intimement liés. Alors, dans le chapitre 13, on avait vu la mauvaise nouvelle que les deux bêtes, la bête politique et la bête religieuse, voulaient établir le gouvernement mondial et la religion mondiale, et leur but était d'installer le royaume de l'Antichrist sur la terre. Quand on lit le verset, tout semble, le chapitre 13, tout semble indiquer qu'ils soient victorieux, du moins de leur point de vue à eux. Alors le peuple de Dieu, bien entendu, semble sans espoir, mais Dieu leur rappelle qu'aucun des élus ne manquera dans le ciel. Ça, c'était un petit peu le résumé du chapitre 13. Et le chapitre 14 est important aussi parce que le Seigneur veut nous montrer le même royaume, mais cette fois dans la perspective de Dieu et du ciel. Alors, le Seigneur veut rappeler à son peuple que ce royaume de l'Antichrist est voué à la destruction. Mais il veut aussi rappeler à son peuple que le royaume du Christ, quant à lui, et de ses élus, ne sera, quant à lui, jamais détruit. Alors, l'agneau, qui représente la personne de Christ, règne dans la gloire avec l'Église triomphante, dans les chants victorieux et dans les louanges. Et ceux qui ont suivi Christ dans la candeur, l'honnêteté, la transparence et la simplicité de l'Évangile sont tous présents. C'est bien entendu un puissant encouragement pour l'Église militante, celle qui est encore sur la terre. Alors, Dieu veut que les gens comprennent cette idée-là de façon complète. Et si on continue l'étude du chapitre 14, qui va être l'étude de la semaine prochaine, le Seigneur veut rappeler que dans le chapitre 14 et les versets 14 à 20, que le temps de la moisson, le temps de moissonner est venu, et parce que la moisson est mûre. On avait vu aussi que le Seigneur veut qu'on fasse un lien aussi avec le psaume 2, dans lequel le Seigneur présente que c'est lui qui a donné le royaume à son fils et qu'il avertit les rois de la terre qui se rit de leur tentative de l'établissement du royaume de l'Antichrist sur la terre dans le but de remplacer celui du Christ. Parce qu'il dit dans le verset 4 du chapitre du psaume 2, « Celui qui est assis dans les cieux s'en rira, le Seigneur se moquera d'eux. » Et dans le verset 6, il leur rappelle, « Et moi, dira-t-il, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Et là, il leur dit qu'il a publié le décret que lorsqu'il a dit à Jésus, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre, tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier. » Et là, il invite les rois à la repentance, il leur dit, « Maintenant donc, ô roi, ayez de l'intelligence, recevez instruction, juge de la terre, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie quand sa colère s'enflammera tout à coup. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Alors Christ, bien entendu, à cause du fait que ça a été décrété par Dieu le Père lui-même, Christ sera roi éternellement et il maintiendra toujours sa souveraineté, son autorité et sa puissance sur le royaume des ténèbres. Alors le premier point qu'on avait regardé rapidement la semaine dernière, c'était le message des trois anges. Et le message des trois anges se résume autour d'une seule idée, celle d'alerter. On avait vu que, dans le fond, une citation du pasteur Herman Oxema qui veut nous indiquer quel est le sens de l'Évangile éternel. Alors lui, il développe l'idée avec assez de détails que l'Évangile éternel, ce n'est pas l'Évangile du salut, mais c'est plutôt l'Évangile de la domination du Christ, de son droit à recevoir que les hommes l'adorent et que les hommes le craignent. Simplement ça, l'Évangile éternel. Alors, Dieu veut rappeler aux hommes qui tentent d'établir le royaume de l'Antichrist sur la terre que Dieu, lui, il maintient son exigence éternelle. Et cette exigence-là, c'est que lui seul doit être craint et lui seul doit être adoré, et non pas le gouvernement, et non pas Satan lui-même. Et Dieu exige avec autorité et il revendique ce droit sur toute sa création, que ce soit les anges ou les hommes. On avait regardé les versets 6 et 7, l'alerte donnée au premier ange, lorsqu'il avait dit dans le verset 6 et 7, « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'Évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu, et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez l'Éternel et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Alors, on avait exprimé la semaine dernière qu'on rejetait l'interprétation que l'Évangile éternel, ça soit un ange qui donne un avertissement aux hommes à la fin des temps, mais c'était plutôt dans la continuité d'exprimer l'idée symbolique que l'Évangile éternel, c'est vraiment l'autorité que Dieu exige, la crainte de sa personne et exige l'adoration de sa personne, et que éternel, ça veut dire que ça a toujours existé et ça existera toujours. Alors, on avait regardé l'endroit de l'alerte, c'était au milieu du ciel, l'auditoire de l'alerte, ceux qui habitent sur la terre, le ton de l'alerte, qui était d'une voix forte et puissante, avec autorité, Et le message de l'alerte, c'était « Craignez Dieu et lui donnez gloire ». Et le moment de l'alerte, c'était « Car l'heure de son jugement est venue ». Et il y avait aussi une obligation qui était rattachée à l'alerte elle-même, c'était celle d'adorer le vrai Dieu et non l'Antichrist. Alors, on avait regardé ça, l'alerte du deuxième ange, quant à lui, était qu'un autre ange le suivit en disant « elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité ». Alors ici, ce qui est à remarquer, qu'on l'avait mentionné la semaine dernière, c'est vraiment l'idée qu'on parle d'un événement à venir et on utilise un verbe au passé. Alors, pour le Seigneur, le décret est déjà décidé et Babylone allait tomber, elle va tomber et que le Seigneur veut ici que son peuple en prenne conscience. Et on avait vu un petit peu l'idée avec une comparaison avec Daniel dans le livre dans Daniel 4 au verset 30 à 37 où le roi Nebuchadnezzar avait prétendu que toute la royauté et l'honneur et tout le royaume qu'il avait conquis était sa propre réalisation et le Seigneur lui avait rappelé qu'il pouvait lui détruire tout cela et l'envoyer dans le champ comme un animal pendant jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu. Alors bien sûr on fait le parallèle et les péchés de Babylone à l'époque étaient une forme d'apostasie sous toutes ses formes, avec ses fruits, et qui comprenait, bien sûr, à cette époque-là, la débauche sexuelle, l'idolâtrie, l'infidélité envers Dieu, l'illusion aussi du pouvoir terrestre, un aveuglement des réalités spirituelles, la servilité et la convoitise au dieu Mammon, et la fausse sécurité. Le message que Dieu avait voulu que son peuple comprenne concernant ces choses-là, c'est vraiment résister à toutes ces tentatives de l'ennemi de vous séduire et de vous corrompre. Résister. Et on était rendu là, on était rendu à l'alerte du troisième ange. L'alerte du troisième ange, elle va du verset 9 au verset 11, et on la relit. Et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau, et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. » Alors, l'idée du vin, de la colère de Dieu, bien sûr, c'est une métaphore. Une métaphore, c'est l'utilisation d'une expression pour nous faire comprendre quelque chose de similaire. Quand on parle du vin, on sait que le vin a dépassé une certaine mesure, ça étourdit, ça enivre. Alors, c'est vraiment dans le verset là, et pour l'idée d'utiliser l'image du vin pour parler d'un jugement divin sur les hommes avait été utilisée aussi dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, au chapitre 25, les versets 15 à 17. On relit le passage. Jérémie, chapitre 25, versets 15 à 17. « Car ainsi m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe du vin de la colère et fais-la boire à tous les peuples auxquels je t'envoie. Ils boiront, ils chancelleront, et deviendront comme insensés à cause de l'épée que j'enverrai parmi eux. Je pris donc la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations auxquelles l'Éternel m'envoyait. » Alors on voit très bien ici l'utilisation de l'image de la coupe, qu'on sait très bien que Jérémie ne pouvait pas faire boire une coupe à toutes les nations. C'est une image, c'est un symbole pour parler que la décision de l'Éternel, c'était que les peuples soient punis. Et aussi, il veut leur rappeler que ce type de jugement-là que le Seigneur va amener est un vin pur et sans mélange. On sait que sur la terre, les hommes reçoivent des jugements de Dieu, les nations reçoivent des jugements de Dieu, mais c'est souvent des jugements qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils sont c'est un mélange de le Seigneur permet quand même qu'ils reçoivent des choses intéressantes, mais il les punit en même temps. Tandis que là, il est en train de dire que lorsqu'il va juger, l'heure du jugement est arrivée, ça va être un vin pur et sans mélange, ça veut dire qu'il n'y aura pas de mélange de miséricorde et de difficulté et de souffrance. Ça va être juste de la souffrance. Alors, vin pur et sans mélange, c'est dans ce sens-là que c'est utilisé. Et il leur rappelle aussi que ceux qui ont pris la marque, c'est tourmenté dans le feu et dans le soufre. Alors, le feu, si ceux qui ont déjà fait un peu de chimie, peut-être que ça vous est déjà été expliqué ou vous avez déjà peut-être vu une expérience. Si on prend du soufre en poudre et qu'on jette ça sur du feu, ça anime le feu, ça le rend plus fort. Alors ici, il est en train de dire que ceux qui ont pris la marque de la bête sur le front ou sur la main vont être tourmentés dans le feu et dans le soufre. Le fait aussi que Dieu mentionne qu'il soit tourmenté devant les saints anges et l'agneau indique que leur jugement sera absolument juste. Alors, tout être humain qui n'aura pas voulu, qui a voulu servir le malin, n'aura pas voulu se repentir, ils vont être tourmentés dans le feu et dans le soufre. La souffrance, bien entendu, va être extrême et va comporter deux aspects qu'on peut lire dans n'importe quel livre de théologie qui nous parle de l'enfer. C'est que ce qu'on appelle, en anglais, les anglophones appellent ça privation of loss et aussi privation of sense. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est qu'il y a un aspect de l'enfer qui est dont la souffrance est causée par la privation de la personne de Dieu. Et de toute miséricorde venant de Dieu. Et la privation of sense, c'est vraiment les sens qui vont souffrir pour l'éternité dans l'enfer, c'est-à-dire une douleur, parce que éventuellement, les âmes qui sont en enfer vont recevoir leur corps et ils vont souffrir dans leur âme et dans leur corps, les deux. Alors, la privation absolue de Dieu, on a beau penser qu'on croit que ça veut dire, mais quand les gens, après avoir traversé, vont avoir reçu le jugement de Dieu, ils vont avoir vu Dieu, et qu'ils vont prendre conscience qu'ils vont en être privés pour l'éternité, ça va créer dans leur âme une infinie, souffrance. Donc, c'est ce qu'on appelle la privation of loss. Donc, c'est comme une privation absolue de Dieu dont tu vas être conscient pour l'éternité et aussi les souffrances qui vont être liées à le fait d'être dans un feu pour l'éternité. Et là, ça nous dit que c'est pas pour quelques années. Ce n'est pas pour même pas pour quelques décennies ou même pas quelques siècles. C'est au siècle des siècles. C'est vraiment l'expression, on peut dire, qui donne le vertige. Ce sera ce type de souffrance-là qui vont leur être imposées pour l'éternité. Il n'y aura plus aucun espoir, comme le texte le dit. Aucun repos, ni jour, ni nuit, comme le texte le dit. Et le jugement, ceux qui vont l'avoir reçu, vont être pleinement conscients que c'est un jugement irréversible, immuable, qui ne peut pas changer, on ne peut pas revenir là-dessus. C'est une réalité tellement terrible qu'aucun homme ne peut vraiment comprendre toute la profondeur et toute l'étendue. Et faut vraiment rejeter aussi les enseignements de certains qui enseignent que l'enfer, c'est après un certain temps, les âmes, les corps seront annihilés. Et que c'est que. Et aussi l'enseignement de l'Église catholique qui enseigne le purgatoire. Alors, il faut rejeter ces choses-là et s'en tenir à ce que disent les Écritures et prêter foi à ce que le Seigneur nous enseigne. Et on regarde le deuxième point. Le deuxième point, c'est vraiment le message de la persévérance. Et c'est dans le verset 12 où le Seigneur nous dit, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, il y a deux choses qui sont mentionnées. Il dit, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'idée est que parce que les saints voient la fin de leurs ennemis, la voient et y croient, que Babylone est tombée et que les adorateurs de la bête sont condamnés à un châtiment éternel, c'est la raison pour laquelle ils peuvent être si patients. En qui exactement les chrétiens sont-ils appelés à être patients? Alors, il nous dit que les chrétiens sont appelés à ne pas utiliser la force ou la violence pour régler leurs problèmes ou pour imposer leur point de vue. Et appeler aussi à persévérer en gardant les commandements de Dieu. Lorsque je suis arrivé sur ce passage-là, ça m'a rappelé que dans notre confession de foi, baptiste de Londres de 1689, il y a des principes qui sont très importants, qui nous sont rappelés concernant la loi de Dieu. Alors, je veux relire les trois paragraphes du chapitre 19 de notre confession de foi, baptiste de Londres de 1689, concernant la loi de Dieu ou le décalogue ou la loi morale ou les 10 commandements. C'est tous des noms équivalents, des synonymes. Alors, je vous relis le paragraphe 5 de ce passage-là sur la loi de Dieu dans notre confession de foi. Alors, je la lis. La loi morale oblige à l'obéissance pour toujours tous les hommes, qu'ils soient justifiés ou non. Cela, non seulement en rapport à son contenu, mais aussi concernant l'autorité de Dieu, le Créateur, qui l'a donnée. Christ, dans l'Évangile, loin de l'abroger, en a considérablement renforcé l'obligation. Alors, ceux qui le veulent peuvent aller dans leur copie, dans leur exemplaire de la confession de foi et aller voir les versets, parce que la confession de foi est bien faite, parce qu'on n'avance pas une idée comme ça à la légère. Tout est fortement ancré dans les Saintes Écritures. C'est bon parfois de relire ça, d'aller relire, d'aller se remémorer toutes ces vérités. Et je relis également le paragraphe 6. Bien que les vrais croyants ne soient pas sous la loi en tant qu'alliance des œuvres, pour en être justifiés ou condamnés, elle leur est cependant d'une grande utilité, comme elle l'est aux non-croyants. En tant que règle de vie, elle leur enseigne la volonté de Dieu et leurs devoirs. Elle les dirige et les oblige à s'y conformer. Elle leur fait aussi découvrir les pollutions coupables de leur nature, de leur cœur et de leur vie, de telle sorte qu'en s'examinant eux-mêmes, ils puissent en arriver à être profondément convaincus de leur péché, à s'en humilier et à le haïr, et aussi à acquérir une plus claire vision de leurs besoins de Christ et de la perfection de son obéissance. En ce qu'elle interdit le péché, la loi est également utile aux régénérés pour qu'ils réfrènent leur corruption, Ces menaces servent à leur montrer ce que leur péché mérite et à quelles afflictions ils peuvent s'attendre en cette vie, bien qu'ils soient délivrés de la malédiction et des rigueurs sans indulgence de la loi. De même, ces promesses leur montrent que Dieu approuve l'obéissance et leur font connaître les bénédictions auxquelles ils peuvent s'attendre en la pratiquant, non toutefois comme un dû de la loi en tant qu'à l'œuvre des œuvres. C'est pourquoi le fait de pratiquer le bien et de s'abstenir du mal, parce que la loi encourage l'un et interdit l'autre, n'est en rien une preuve que la personne soit sous la loi et non sous la grâce. Très important de réaliser cela, de reméditer ça, de comprendre ça, d'intégrer tout cela dans notre mémoire, dans notre il faut, très important. Alors, on n'a pas le temps de regarder ça en détail ce matin, mais dans le fond, moi, le but, c'était vraiment, quand on dit obéir au commandement de Dieu, de voir qu'est-ce que ça implique pour les hommes en général et qu'est-ce que ça implique pour les croyants en particulier. Et on le paragraphe 7, lui, quant à lui, se lit comme suit. Les usages de la loi mentionnés ci-dessus ne sont pas contraires à la grâce de l'Évangile, mais s'accordent harmonieusement avec elle. L'Esprit de Christ soumet la volonté de l'homme et la rend capable de faire librement et joyeusement ce que la volonté de Dieu, révélée dans la loi, exige de faire. Alors, je recommande de reprendre ces paragraphes-là dans le chapitre 19 de votre confession de foi. Des fois, ça peut demander un certain effort, mais faites-le parce que ça vaut à peine, parce que c'est des choses qui sont très importantes à comprendre et à appliquer dans nos vies de tous les jours. Autre chose que le verset 12 leur dit, c'est qu'ils sont appelés à persévérer en ne reniant pas Dieu et son alliance. Les saints sont appelés à garder la foi de Jésus en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ. Ils doivent continuer, malgré les oppositions, malgré toutes les souffrances, à croire en cette glorieuse personne de Jésus-Christ et de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous devons donc veiller constamment et obéir sans compromis à la parole de Dieu. Troisième point qu'on va regarder, c'est que le message de la voix du ciel, dans le verset 13, qui est celle d'annoncer. Verset 13, on le reprend. « Et j'entendis une voix du ciel qui me disait, « Écris, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » Alors, on entend une chose ici, annoncer, qu'est-ce qui est annoncé? C'est vraiment une promesse de Dieu. Il y a une voix qui vient du ciel. Alors, on pourrait, vu que le texte ne mentionne pas si c'est la voix d'un ange ou la voix de Dieu lui-même, je pense que le contexte nous montre que c'est la voix de Dieu lui-même. Alors, il est vraiment plausible de croire que c'est la voix de Dieu en personne. Ce sont les paroles, ce sont vraiment des paroles d'une importance extrême. Parce que ces paroles-là, il commande quelque chose. Et la preuve que c'était extrêmement important, c'est que cette voix du ciel-là dit à l'apôtre Jean, écrit. C'est pas seulement des paroles. On sait que les paroles, pour les hommes, du moins, les paroles des hommes ont tendance à s'envoler. Comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits demeurent. La raison pour laquelle Dieu veut que Jean, l'apôtre Jean, écrive ces choses, c'est pour leur donner une permanence. Et il le dit à Jean avec une grande autorité. Alors, le Seigneur veut que ces paroles soient écrites. Il les y écrit. Et le but, c'est très certainement celui de souligner la permanence, l'indestructibilité, l'immuabilité et l'inaltérabilité de la promesse de bonheur qu'il est en train de leur donner. Très important de réaliser que Dieu veut que ça soit écrit. On peut aller lire dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 25, cette fameuse promesse de Dieu concernant le bonheur futur des élus. Alors 1 Pierre, chapitre 1, verset 25, « Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. » Très important ici de réaliser que le bonheur que Dieu promet, c'est une parole de Dieu, et elle va demeurer éternellement. Alors, le bonheur des élus du Seigneur, quand il leur dit « heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ». Alors, peu importe ce que l'ennemi pourra amener comme souffrance aux élus, on est victorieux automatiquement parce qu'il ne peut agir que sur les corps, il ne peut pas agir sur la destinée éternelle des âmes. Alors, quand le Seigneur dit « heureux dès à présent », les morts qui meurent dans le Seigneur veut encourager les siens qui sont oppressés par Satan et ses serviteurs et qui souffrent cruellement. Les élus doivent se rappeler constamment que l'ennemi ne peut détruire le salut ni le bonheur qu'ils connaîtront après leur mort. Et autre chose qui est intéressante à noter dans ce verset-là, c'est vraiment l'idée, ça dit la confirmation par le Saint-Esprit. Ça dit « oui » dit l'Esprit. Bien entendu, on parle de l'Esprit de Dieu. C'est une confirmation par Dieu le Saint-Esprit de la vérité qui vient d'être dite et que Dieu commande à Jean d'écrire. Alors, il veut ici rappeler sa promesse. Donc, il veut annoncer deux choses. Le repos qu'ils connaîtront et la récompense aussi qu'ils recevront. Alors, le repos, que ça dit « car ils se reposent de leurs travaux ». Les élus qui vivront ces expériences de tribulation rencontreront de grandes difficultés. Continuer d'être fidèle au Seigneur dans les persécutions est difficile, mais la grâce de Dieu rend la chose réalisable. Ça, il faut continuellement se souvenir de cela. Ce n'est pas notre force qui va faire en sorte qu'on va passer à travers. C'est uniquement la grâce de Dieu. On peut lire comme confirmation de cela Matthieu, chapitre 5, versets 10 à 12. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous serez heureux lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Donc, il veut que les croyants se fassent rappeler cette idée du repos éternel après leurs travaux, et il veut aussi leur rappeler la récompense qu'ils vont recevoir, parce que ça dit « et leurs œuvres les suivre ». Rien n'échappe au Seigneur. Il a parfaitement vu et enregistré toutes les œuvres des croyants durant leur séjour terrestre, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses, ça n'a pas d'importance. Le Seigneur va récompenser en proportion directe avec la fidélité, avec la quantité aussi. Et donc, chaque croyant va recevoir une récompense qui va être directement proportionnelle à la qualité de ses œuvres. Et la récompense du Seigneur va refléter, bien entendu, sa grande bonté et sa grande générosité. On l'a, par exemple, dans cette idée-là nous est rappelée dans la première épître aux Corinthiens, dans le chapitre 15, les versets 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. C'est des versets intéressants à se faire rappeler. On a vraiment besoin de recevoir cet encouragement qu'on se doit de persévérer, même dans les épreuves les plus difficiles et les plus souffrantes. Alors, quelques applications pour mettre en pratique dans notre vie de tous les jours de ce qu'on a vu la semaine dernière et de ce qu'on voit, ce qu'on vient de voir aussi aujourd'hui. Trois applications. La première, nous avons aussi le devoir d'alerter sur les réalités spirituelles suivantes. Premièrement, que l'heure du jugement est venue ou qu'elle s'en vient à très grands pas. Deuxième devoir d'alerter, celui que nous devons comprendre que Babylone la Grande est déjà tombée par décret divin. Nous aussi, on se doit de le rappeler aux croyants. Et troisième, que l'enfer éternel est réservé aux adorateurs de la bête, qu'elle soit religieuse ou politique. Très important. On a un devoir d'alerter. Deuxième application, nous sommes appelés à la persévérance. Bien entendu, lorsque les temps sont difficiles et que l'on souffre, des fois, il peut y avoir une tentation de compromis, une tentation d'abandon. Et il faut absolument résister à cette idée-là, parce que les Écritures nous apprennent que nous sommes plus que vainqueurs, pour la simple et bonne raison que notre destinée éternelle est immuablement scellée. N'est-ce pas une idée rassurante de savoir que quand Dieu sauve, il sauve de façon définitive, et peu importe ce qu'on peut traverser, bien sûr, on a une part à faire, mais c'est Dieu qui nous donne la grâce d'avoir la capacité de traverser les moments difficiles de nos vies. Troisième application, rappelons-nous sans cesse la promesse de Dieu qui nous dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Le repos, la félicité éternelle et les récompenses divines nous attendent. Que notre grand roi et juge Jésus-Christ soit éternellement béni et loué. Amen.